me choque.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Craponne pour cet invité du jeudi. Aujourd'hui, nous allons être en compagnie dans quelques instants de Mireille Pluchard pour son dernier roman, Parfum d'Internie. On va le retrouver d'ailleurs immédiatement. Mireille, bonjour.
Bonjour à tous.
Bienvenue donc sur Radio Craponne. Alors on va parler de ce dernier livre, puisque c'est vrai que vous en écrivez beaucoup, vous aussi. Hein. Alors ce dernier qui s'appelle Parfum d'Interdit, toujours aux presses de la Cité.
Oui.
Alors on sait que vous êtes une passionnée d'histoire quand même. Hein,
c'est ça, et je pense que ça... Ça se remarque dans mes ouvrages.
Oui, puis vous avez un accent sympa aussi qui nous fait dire que que vous vivez un peu dans le sud de la France quand même. Hein.
Ben oui, voilà. Plus précisément, les Cévennes.
D'accord, ben vous n'êtes pas très loin de chez nous quand même. Les Cévennes, c'est pas très loin.
Non, non, mais il y a quelques virages à passer quand même avant de se retrouver.
D'accord. Alors, vous êtes à votre combien de romans? J'ai pas trop regardé, mais ça en fait pas mal quand même.
Eh bien, écoutez, il y a 24 ans que j'écris. J'ai commencé, j'ai sorti mon premier ouvrage en 2002. Et donc, si je compte bien, eh bien, à raison d'un ouvrage par an, ça fait 24 livres.
Oui. Et qu'est-ce qui vous a donné, pour se rappeler un peu, qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire des bouquins? Vous étiez une passionnée de lecture aussi?
Alors, oui, passionnée de lecture, c'est certain. Passionnée d'histoire, avec un grand H. Et je me suis adonnée, et je m'adonne toujours, à la généalogie. Et c'est plus précisément la généalogie qui m'a amenée à l'écriture, parce que faire des recherches, retrouver ses ancêtres, mais retrouver ses ancêtres sous forme figée de dates et de lieux, m'a donné l'envie de leur donner vie, justement, et de les inclure dans l'histoire de la région.
Et alors, votre profession, c'était quoi, en fait?
Oh, j'étais maman au foyer.
Ah, ben, c'était une belle profession, hein.
Oui, 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 j'ai eu la chance de pouvoir rester à la maison, et voilà. Alors, je dis, j'étais à la tête d'une petite entreprise familiale.
D'accord, d'accord, très bien. Alors, donc, on va parler...
Oui, oui, oui.
Oui, on va parler de ce livre, Parfum d'Internie. Alors là, vous situez votre action en 36, hein, juste avant la guerre, on va voir pourquoi, d'ailleurs. Puisque vous êtes avec votre principal, je dirais, dans ce livre, c'est Pauline. Hein,
c'est Pauline qui va être l'héroïne, mais qui est quand même bien entourée.
Voilà.
Bien entourée de garçons comme de filles qui ont tous un rôle à jouer. Ce ne sont pas des figurants, des personnages comme ça qu'on crée pour donner du corps à un ouvrage. Ils ont tous un rôle et qui va peut-être faire pencher l'histoire tantôt d'un côté, tantôt de l'autre.
Oui, c'est ce qu'on va un petit peu voir, puisque elle, dans sa famille, on aurait bien voulu qu'elle fasse des études de biologie à Montpellier, donc... Mais elle préfère.
Oui. Par quoi elle a commencé d'ailleurs, hein. Elle était déjà à sa troisième année de biologie et elle a eu une révélation. Certainement que ses études l'ont amenée à avoir cette révélation de s'adonner à une émergence là qui l'a titillée. Celle de c'est l'aromathérapie.
Oui, c'est pour ça qu'elle se met à la culture de la lavande.
Le parfum et le médicament, tout ça, ça a un rapport finalement avec la biologie.
Oui, et elle va se mettre à la culture de la lavande.
Et particulièrement, voilà, de la lavande.
Oui, donc qui va la diriger vers les huiles essentielles Donc, comme on connaît bien maintenant, puisque maintenant les huiles essentielles, il y en a
tout
pour...
à fait, tout à fait. Alors que c'était vraiment les balbutiements, et à l'origine, certains monsieur Gattefossé qui essayait de promouvoir justement ces huiles essentielles et leur efficacité aussi.
Oui,
leur valeur efficace, voilà.
Alors bon, on va voir.
Il faut dire que cet ouvrage est le troisième d'une série sur le parfum. Il a été précédé donc de Isolde et le secret des fleurs, c'est-à-dire le parfum au Moyen-Âge. Puis l'année dernière, j'ai sorti L'ambre et le masque, le parfum au XVIIIe siècle, une époque où on se parfumait à outrance, pour la bonne raison que l'on se lavait guère. Donc, il fallait quand même être supportable pour les autres. Donc, on se parfumait les cheveux, le visage. Et on se parfumait aussi les gants, à l'intérieur des gants, pour, quand on faisait des gestes, avoir des parfums qui s'évaporaient un peu autour de soi. Et c'est seulement une série sur le parfum et non une saga, puisque les personnages et les histoires n'ont rien à voir entre eux. Le seul lien conducteur, c'est le parfum à travers les âges.
Oui, alors justement, alors elle a une chance quand même, c'est qu'elle peut cultiver sur une terre qui appartient à son oncle. Elle a son cousin Pierre, qui est un futur médecin, et Mathieu, son ami d'enfance, alors lui, c'est un artiste, puisqu'il est clarinettiste, promis un bel avenir, et c'est ces personnages, en fait, qui l'incitent à continuer dans cette voie.
Eh bien oui, 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 contrairement à ce qu'aurait espéré sa maman, puisqu'elle a perdu son papa durant la guerre de 14, elle a été élevée par sa maman, et elle aurait bien aimé qu'elle continue ses études et que son cousin et que son ami d'enfance l'aident dans ce sens, à la pousse à continuer ses études. Eh bien non, ces deux jeunes gens, c'est une époque où on veut s'affirmer aussi, hein, cette première moitié du XXe siècle où on veut un petit peu décider de son destin. Et Pauline est de celle-là qui va contre vent et marée aller vers ce qu'elle croit.
Alors bien sûr, 36, la guerre arrive quelque temps après. Et quand la guerre éclate, eh bien, alors même que si ça marchait très bien pour elle, eh bien, la guerre éclate. Et là, ça remet beaucoup de choses en question. Déjà, les garçons sont mobilisés. Hein, alors,
et voilà.
Ils s'en vont.
Donc, la main d'œuvre déjà. Hein,
ouais, ouais, c'est difficile. Alors, on va voir que là, il va falloir qu'elle soit très, très forte, hein, puisque... on verra dans le roman, hein, cette époque qui est pas facile, hein, troublée, hein, dans les guerres.
Oui, et oui, elle ne baisse pas les bras.
Voilà, c'est ça. C'est ça,
et
oui.
Elle sait s'entourer. Bon, peut-être aussi le destin, la chance aidant. Elle va s'entourer d'un personnel finalement bien utile.
Oui, mais alors...
Par ces temps qui courent. Hein.
Oui, mais pas comme des hauts jours dans les romans, il y a une petite histoire d'amour qui arrive.
Bien sûr.
Mathieu et Pauline, Mathieu...
Et d'amour contrarié.
Voilà, oui, en plus. Mais Mathieu et Pauline, Mathieu a l'air d'avoir quelques regards sur Pauline, mais malheureusement, lui, bien sûr, il part à la guerre. Hein, et est-ce qu'il va pouvoir... Est-ce que ça va pas... On dit loin des yeux, moins du cœur. Mais tout cela, bon, on va le voir au fil du roman. Pauline va continuer de faire ce qu'elle aime, malgré la guerre. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir pas mal d'embûches, hein, mais bon, on va voir comment elle s'en sort, quoi, en fait. Hein.
Oui, oui, oui. Et tout en, tout en continuant à exploiter ce petit rêve, parce que c'est quand même pas énorme, elle arrive à s'en sortir et elle veut donner aussi sa quote-part à l'effort que font les Français, soit dans la résistance, soit dans le secours qu'on apporte aux uns et aux autres. Et voilà, c'est dans sa nature, elle, de s'ouvrir aux autres pour, non pas pour se faire remarquer, mais parce que c'est spontané chez elle. Comme par exemple l'accueil des Espagnols au cours de la retirade. Certes, son cousin Pierre l'a bien aidé de ce côté-là, mais on voit qu'elle, non pas qu'elle prenne du plaisir, mais qu'il y a quand même une certaine satisfaction à apporter justement sa quote-part.
Oui, parce que justement, dans le même temps, il y a beaucoup d'Espagnols qui s'en vont, hein, qui eux c'est aussi, ça, de l'autre côté de la frontière, alors, c'est pas brillant.
Voilà, soit qu'ils se posent en Cévennes et qu'ils arrivent à trouver du travail, soit aussi qu'ils gagnent le maquis parce que, on les recherche facilement et ils sont des cibles privilégiées pour fournir déjà des personnes pour le STO.
Eh ben oui.
Et donc, il y a du travail là.
Oui, parce qu'en plus, les Cévennes, ça a quand même été un haut lieu du maquis. Hein. Il s'est passé beaucoup de choses dans les Cévennes.
Oui, entre autres, parce qu'il y a eu d'autres lieux aussi conséquents. Mais c'est vrai qu'on fait souvent référence au maquis Cévenol, qui a eu sa carte à jouer dans cette résistance et dans cette libération de la France.
Et c'était aussi l'occasion de parler de cela ?
Je pense que c'était une porte à ouvrir sur cette mémoire. Après tout, elle n'est pas si lointaine.
Hein. Non, hein, non.
Encore qu'il n'y a plus beaucoup de personnes pour en parler, pour l'avoir vécu, mais je parle d'une échauffourée très dramatique qui a eu lieu dans le village de Zé, et j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui frôle les 99 ans, je crois, et qui a participé à cette échauffourée, et qui m'a raconté un petit peu, il y a ce côté réalité dans un ouvrage de fiction.
Alors aujourd'hui, on parle avec Mireille Pluchart de son dernier roman « Parfum d'internie aux presses de la cité ». On va voir, oui, comme c'est un peu résumé, que c'est une ode à la vie, vous mettez l'espoir, la jeunesse et la passion. Alors c'est tout mêlé là, hein, parce qu'il faut avoir une passion. Elle, Pauline, on est sûr, elle l'a, hein, parce que dans ces moments, oui. Dans ces moments difficiles, elle va résister. Puis la jeunesse, parce que quand on est jeune, on a envie de conquérir le monde. Et la passion, la passion, c'est que on est amoureux, mais on est séparé par des événements. Mais on verra que tout au long du roman, ça va s'améliorer.
Voilà, et les passions peuvent s'assoupir un instant et puis se révéler à un autre. Et puis, on n'est pas obligé d'être passionné pour une chose et pas pour une autre. Les passions sont multiples, en fait.
Oui, et c'est ce qui va transpirer.
Que ce soit une passion pour son métier ou une passion amoureuse, évidemment.
Oui, c'est ce qui va transpirer un peu de votre roman, quoi, de voir oui. les différentes passions, hein, puisque c'est vrai qu'on n'en a,
c'est
pas,
ça,
on
c'est
en a
ça.
Pas qu'une,
ouais,
on n'en a pas qu'une souvent. Hein. Alors, bon. Comme dans tout bon roman, il va y avoir des embûches parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Hein, donc,
loin de là, en ouais. effet, oui.
Elle va être quand même. Elle va avoir des moments un peu compliqués là, dans sa vie. Là.
Ben, tout d'abord dans son l'exploitation de ces terrains, ça ne va pas être chose aisée, hein, plus les années avancent et plus la répression, enfin l'emprise de l'occupation va limiter ses possibilités. Et d'un autre côté, va s'ouvrir un marché pour elle auquel elle ne s'attendait pas tout de suite, c'est-à-dire les pharmacies n'étant plus approvisionnées, eh bien les gens vont découvrir cette aromathérapie et vont découvrir la façon des fois parfois de se soigner avec des herbes que l'on a fait macérer, que l'on peut absorber, que l'on peut passer sur le corps, et ça va être pour elle une source d'encouragement et aussi de développement, parce qu'elle ne va pas se focaliser uniquement sur sa plantation de elle cultivait plusieurs plantes et qui avaient chacune finalement sa destination, parce que au départ ces potions qu'elle faisait, elle avait un accord avec un laboratoire vétérinaire. Et puis petit à petit, ces médicaments vont s'adresser également aux êtres humains et non plus seulement aux animaux.
Oui, mais surtout qu'en période de guerre, l'approvisionnement, ce n'était pas évident. Et
exactement,
ça va permettre.
Voilà. Et puis, voilà, peut-être la France avait autre chose à penser que de soigner les chevaux de course, voilà, il fallait surtout plutôt investir sur l'armement ou enfin tant de choses aussi auxquelles il fallait parer. Hein.
Oui, puis on a besoin de médicaments déjà pour ceux qui étaient au front, hein, donc
aussi,
il pouvait manquer un petit peu, puisque vous dites en fait. Ben on le voit, puisque même pratiquement 90 ans après, dans certains pays, on se soigne beaucoup avec les plantes. Hein. Il y a des cultures où les gens... c'est les plantes avant d'aller voir le médecin.
Exactement. Et en fait, c'est aussi un retour aux sources de mon premier ouvrage, puisque au Moyen-Âge, on balbutiait, hein, c'était les balbutiements du parfum qui était totalement indissociable du médicament. Le médicament venant des plantes et le parfum venant des plantes, c'était deux entités tellement proches qu'on pouvait les confondre. Et en fait, ce n'est que boucler la boucle de revenir aux fondamentaux.
Alors, est-ce qu'on peut dire, puisqu'on a parlé du maquis, des maquisards, est-ce qu'on peut le dire ou est-ce qu'on ne peut pas le dire? Est-ce que Pauline a un rôle à jouer là-dedans ou pas du tout?
Eh bien, elle n'est pas directement impliquée, sauf que son ami Mathieu va en quelque sorte... la faire entrer en résistance. Il mesure pas au départ, c'est a posteriori qu'il se dit mais dans quel dépied je l'ai fourré, parce que il lui propose d'accueillir un personnage un peu ambigu, hein, que l'on va découvrir tout doucement au cours du roman. Au début, il est mystérieux, puis petit à petit, il va se découvrir. Et avec cette découverte, on va découvrir l'horreur qui pouvait exister aussi, hein, dans le traitement des gens qui étaient contre le gouvernement nazi.
Oui, alors bon, c'est pour ça qu'il y a plusieurs histoires qui s'impliquent, en fait, hein. Ça permet de découvrir l'époque à travers la passion de Pauline qui, elle, résiste contre vent et marée.
Voilà, et puis les différentes façons finalement de participer à l'effort de guerre. Il n'y a pas que l'argent, il y a aussi des investissements personnels, dangereux, certes, mais voilà. Et il y a beaucoup d'histoires exactes dans ce roman, bien que ce soit un roman, Pauline. C'est une fiction, Mathieu, c'est une fiction, tout ça. Mais par exemple, le village de V, dans lequel se déroule le roman, village tout proche d'Alès, a été amené à accueillir cette famille de Lorraine, un village de Lorraine qui a été. Bien sûr, envahis par les Allemands, et qui leur ont dit ou vous restez et vous devenez Allemands, ou vous partez tous. Et ce village, je ne me rappelle plus, Vestris, je crois, je ne me rappelle plus du nom, tout à fait. Ce village est parti en son entier. Le maire, le curé, l'instituteur et tous les habitants. Ont trouvé refuge à Eusé, où ils se sont installés et où ils ont créé un sous-village. Et ils ont vécu pendant toute l'occupation. Ils sont retournés chez eux en Lorraine à la Libération. Et il y en a qui ont gardé des liens avec des villageois d'Eusé. Oui, donc j'ai trouvé aussi cette histoire extrêmement touchante.
Ah oui, c'est une belle histoire, hein, parce qu'il fallait le faire quand même.
C'est une belle histoire, oui.
La Lorraine, les Cévennes, pendant la guerre, c'était pas à la porte à côté, hein.
Ah ben non, non, non. Et puis c'était pas rien, parce que c'était un village paysan, d'abandonner tout. On abandonnait sa maison, on abandonnait ses terres à des étrangers, à une nation étrangère, et sans peut-être espoir d'y revenir.
Oui, donc c'était un bel effort, hein, et puis déjà traverser la France à cette époque, il y avait des risques, hein, parce que
Ah oui.
Oui, on ne traversait pas comme maintenant, où c'était très facile.
Certainement pas,
oui. Alors bon, c'est
mais
vrai.
Voilà, donc j'ai mis en scène cette histoire qui est totalement vraie, quoi. Hein.
Oui, qui a existé, quoi, cette époque.
Il y en a même qui ont fait construire... Des Lorrains qui viennent encore, leurs enfants, leurs petits-enfants viennent encore en vacances à Eusé.
Eh oui, ils viennent dans leur résidence secondaire. Pour eux, c'est, on dira que c'est le midi moins quart, les Cévennes. Hein, donc, mais
ah oui. Oui, alors, il y avait quand même un petit peu la barrière de l'accent. Hein.
Oui. Oui, puis je dirais que c'est vrai que pour des Lorrains, c'est vraiment le sud. Hein. Moi, je vois déjà des fois à l'étranger, la Haute-Loire, ils disent « mais vous êtes dans le sud ». Non, on n'est pas tout à fait dans le sud, mais on n'est pas bien loin non plus. Hein. C'est vrai, on est plus au sud de la France.
Eh bien oui.
Donc, alors...
Mais c'est ce qui fait la France belle, c'est ces divers accents.
Voilà. Voilà.
Je trouve qu'il faut garder son accent parce que déjà on situe quelqu'un qui est il est de tel endroit, alors
oui.
C'est vrai qu'on a tendance à un accent comme le mien de dire oh là là vous êtes de Marseille, mais non.
Ah non, pas, c'est
si
pas pareil.
Si on parlait marseillais,
non.
Ce sera pas du tout pareil.
Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai que alors moi c'est ce que je reproche un peu, hein, c'est aux radios, aux télévisions. Ils veulent pas que les animateurs aient d'accent. Alors c'est...
Ah oui.
Ce qui est un peu dommage.
Ils perdent leur. Moi, je trouve qu'on perd de sa.
De son identité. Son identité. On perd son identité. Bon, on est de Marseille, on a l'accent marseillais. On est de
voilà.
Toulouse, on a l'accent toulousain, et ainsi de suite. Hein, et finalement, c'est ce qui fait le sel. De la France, un peu, hein. C'est bien, chacun son accent.
Ah oui,
et
ouais,
voilà.
Oui.
Ben voilà, bon, ben c'est une bonne histoire, ça, c'est Laurent qui sont descendus. Alors Pauline, bien sûr, va être encore un peu plus investie là, dans cette arrivée de nombreux Lorrains.
Oui, 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 il y en a qui vont venir travailler même à sa... dans ces terres, quoi. Et, c'était des, comme je vous l'ai dit,
des gens de
la terre. Donc, bon, peut-être que, voilà, la culture de la lavande, ils ne connaissaient pas, mais ils savaient tenir un râteau, une pelle.
Bien sûr. c'est sûr.
Ce n'étaient pas des néophytes.
Voilà. Ouais. Et alors, pour en revenir à Mathieu et Pauline, cette histoire, Mathieu, qui l'a fait un peu rentrer dans le maquis, ça va encore les rapprocher un peu plus.
Oui, oui, oui. Pourtant, ça a failli complètement les éloigner. La présence de cet intrus sur les terres de Pauline, évidemment... il croyait bien que ça n'était fini et il ne pourrait jamais se déclarer. Or, les événements font que à découvrir.
Ah ben bien sûr, on va pas révéler la fin.
Découvrir, voilà.
Voilà, bah oui, ce serait...
Je fais référence aussi à une vérité historique. C'est-à-dire les enfants d'Isieux, hein, l'affaire des enfants d'Isieux. Et Mathieu va participer justement à transporter des enfants qui étaient qu'on requinquait, hein, parce que c'était des enfants qui avaient souffert, qui étaient malins, enfin, des enfants justes, bien sûr, pour la plupart. Dans un préventorium à Palavas et dès qu'ils étaient un petit peu à même de voyager, il fallait les caser en toute sécurité. Alors, les faire passer en Espagne, c'était une solution. Et il y avait aussi les amener à Isieux où il y avait cette colonie, hein, une bonne trentaine d'enfants, où on estimait que la sécurité était presque assurée. Et je dis presque parce que, évidemment, dès que les Italiens vont se retirer de Isieux, eh bien, ce sera la mainmise des nazis, et puis ce sera l'arrestation, et puis tous ces enfants qui vont périr. Et les enseignants, tous ceux qui s'occupaient d'eux également. Donc, là aussi, Mathieu a eu un rôle à jouer et un rôle dont il remettra difficilement, hein, parce que quand il saura le résultat...
Et le sort, tous ces enfants... Ouais, quand on a essayé de sauver des enfants, qu'on n'y est pas, enfin des enfants ou d'autres personnes,
c'est ça.
Et qu'on n'y est pas arrivé, c'est dur. Hein.
Qui l'aura transporté,
Je pense que psychologiquement, c'est très dur. Alors,
on ne sort pas indemne d'une guerre.
Non, jamais, jamais. Ça. Enfin, nous,
jamais.
Moi, voilà. J'ai jamais eu de guerre, mais bon, tous ceux à qui on en parle.
Voilà. C'est ce que j'ai voulu dire, que c'est. La jeunesse amène obligatoirement l'espoir et pourquoi pas la joie de continuer, la joie de vivre.
Alors peut-être qu'on peut dire inversement, là, Pauline l'a peut-être aidé à se reconstruire, on peut dire ça quand même?
Aussi. Mais je crois qu'ils avaient besoin l'un de l'autre. Hein. Chacun était la béquille de l'autre.
D'accord. Oui, voilà.
Il me semble.
Oui, non, mais c'est ça.
Il me semble, oui.
C'est...
Parce qu'au moment où l'un flanchait, l'autre était là pour servir un peu de...
Oui, c'est un remontant.
De canne.
Voilà, c'est ça, oui. C'est un remontant un peu.
Et inversement, oui.
C'était pas par les plantes, mais c'était autre chose, quoi, je veux dire, voilà. Donc, Mireille Puchard, Parfum d'interdit, on a fait à peu près le tour, hein, puisqu'il faudra attendre la fin du relevé.
Il y aurait plein de choses à dire,
oui.
Mais il y a surtout plein de choses à découvrir
voilà.
Par l'écriture, et j'espère que vos auditeurs se seront laissés convaincre par notre conversation.
Il n'y a pas de raison, hein, il n'y a pas de raison. Et puis, oui, ce qu'il y a de bien, c'est là où on voit votre... Oui, allez-y.
Ils sont à votre écoute et ils savent que vous ne les amenez pas sur des chemins perdus, c'est sur des belles routes.
Exactement. Et puis, avec votre passion de l'histoire, eh ben, on en profite d'ailleurs pour se remémorer un petit peu cette guerre 39-45.
Oui, oui, oui,
hein, on est en plein dedans. Là,
c'est jamais inutile, hein, parce que on se dit, mais on n'est jamais si proche du passé qu'au présent.
Ouais, et puis
c'est un peu idiot ma phrase,
mais c'est
pourtant
ça.
C'est la réalité.
Ouais, c'est ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Hein, et quand on voit ce qui se passe en ce moment, on avait dit 39-45, ça sera la dernière. Et ben on en est loin. Hein. On en est très loin.
Et même en 14, ils avaient dit c'est fini. Hein, plus jamais ça. Non, plus jamais ça.
Eh oui.
On voit ce dont encore l'homme est capable.
Ouais, de
belles... L'homme, hein, je veux dire l'humain.
Oui, mais c'est ça.
L'humain.
Il est capable de belles choses parfois, mais aussi très vilaines, et on le voit
en
ce moment. Alors, Mireille, avant de se quitter et de refermer le soleil que vous avez dans votre voix, parce que ça nous...
Waouh.
Ah, si, mais c'est
écoutez,
vrai.
Écoutez, dans mon jardin aussi, hein, parce qu'il fait beau.
Ah oui, il fait beau. Mais nous aussi, il fait pas trop mauvais.
Il fait beau, et je dis il fait beau parce que c'est moins chaud.
Oui, déjà.
On a eu le soleil tout l'été, mais je ne vous aurais pas dit que c'était beau parce que c'était infernal.
Oui, mais nous, c'était pareil, pourtant on est en hauteur. Hein, donc, vous voyez que.
Oui.
Alors.
Ça a été très, très pénible.
Et il n'y a plus chez vous ou pas du tout?
Jamais.
Ah non plus, ouais, d'accord. Bon.
Alors, il a dû pleuvoir en montagne pour qu'on ait un peu de mistral. Et de un peu de vin un peu plus frais,
d'accord.
Disons, qui nous rend les journées plus agréables.
Eh bien, alors, avant de se quitter, moi j'ai la question traditionnelle à laquelle je pose à tous les écrivains avec qui j'interviens. Je sais que vous avez sûrement un autre roman sous le coude, parce que c'est impossible que...
Oh oui.
Ah ben voilà, alors ça sera quoi?
Ah oui.
On va changer complètement l'histoire. On va laisser les parfums.
On a fini avec les parfums. On en a terminé. Et j'avais fait un ouvrage sur la mine en Cévennes. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ça date de quelque temps. Ça s'appelait Le Puits sans nom.
Oui.
C'était un puits de mine de charbon. Et puis, quelques années après, j'ai fait un ouvrage sur le chemin de fer, lequel est étroitement lié avec la mine. Parce que pas de charbon, pas de locomotive qui avance. Et pas de charbon, et pas de rail si on n'a pas du charbon pour faire chauffer les fours. Donc, vous voyez, l'évolution du chemin de fer en France, il fallait qu'il évolue très rapidement parce qu'on avait pris pas mal de retard au milieu du 19e siècle. Cette évolution était étroitement liée avec le charbon. Et je me suis dit, il y a un troisième corollaire, ce sont les aciéries et les forges. Et nous avions des aciéries et des forges à Tamaris. Et le prochain ouvrage va concerner justement le travail de l'acier et puis des belles personnes aussi pour faire un roman. Voilà.
Très bien. Eh bien, écoutez, Mireille, merci d'avoir été avec nous. Hein. Donc, je répète, Mireille
merci
Pouchard.
À vous m'accorder ces quelques instants le sort soit favorable à Parfum d'Interdit.
Oui, très bien. Ben, c'est toujours un grand plaisir de vous entendre. Donc, Mireille Pouchard, Parfum d'Interdit, aux Presses de la Cité. Eh bien, au prochain roman.
Eh bien, avec plaisir.
Merci beaucoup.
Je vous souhaite une belle journée.
Vous aussi. Au revoir. Merci. Voilà avec Mireille Pluchard pour son dernier roman, Parfum d'Interdit aux Presses de la Cité. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée le lundi à 22h, le mardi à 19h, le mercredi à
12h30. Bet you Mac he's back in town. Look a year, Louis Miller disappeared.